Bienvenue dans notre exploration du jour. Alors, on a devant nous un document assez unique, je dois dire. Une sorte d'inventaire qui présente, tenez-vous bien, 21 espèces différentes qui peuplent un univers foisonnant.
Oui, c'est ça.
Notre objectif aujourd'hui, essayer de comprendre un peu ce panorama galactique. On va tenter d'esquisser un portrait rapide, mais on espère révélateur de chacune.
C'est un défi passionnant, oui. Ce qui saute aux yeux tout de suite vraiment, c'est la diversité. Incroyable. Les formes de vie, les organisations sociales, les philosophies.
C'est fou, hein?
Ah oui, on va des coalitions qui brassent les cultures à des êtres faits d'énergie pure, on passe par des civilisations qui fusionnent carrément biologie et technologie, ou alors des empires guerriers très très structurés. C'est une véritable vitrine des possibles en fait.
Tout à fait. Alors, comment s'y retrouver là-dedans? Pour ne pas se noyer dans cette profusion, on va les aborder une par une.
Oui, c'est plus simple.
On va essayer de faire ressortir ce qui les rend uniques, et puis, peut-être, voir si quelques grands thèmes émergent. Prêt pour ce tour d'horizon un peu accéléré?
Allons-y.
Commençons par un cas particulier, les cosmopolites. Alors, eux, ils ne sont pas définis par une biologie commune, c'est ça?
C'est plutôt une culture partagée.
C'est exactement ça. Les cosmopolites, c'est avant tout une coalition culturelle. Ça regroupe diverses espèces biologiques, mais sous une bannière commune.
D'accord.
Leur force, c'est vraiment cette capacité à intégrer, à s'adapter. Ils ont pour ça leur Conseil des races, qui est une sorte de démocratie représentative multiculturelle, et puis une langue commune, le basic.
Mais bon, le grand défi, évidemment, c'est de maintenir une cohésion, une authenticité culturelle, malgré les frictions.
Forcément, avec tant de peuples différents.
Oui, ça doit pas être simple tous les jours.
Voilà.
Leur technologie, d'ailleurs, elle est pensée pour être accessible, durable pour le plus grand nombre. C'est assez pragmatique.
Intéressant comme point de départ, cette union par la culture plutôt que par l'espèce. Alors, passons maintenant à quelque chose de radicalement différent.
Ah.
Les Zagons.
Ah oui.
Ouais. Des êtres d'énergie, bioluminescents, qui flottent, qui communiquent par la lumière. Là, on est à l'opposé complet du modèle cosmopolite, non?
Complètement. Les Zagons, ce sont des pacifistes absolus. Ils vivent sur Aethys, un monde où ils sont en symbiose avec les flux d'énergie cosmique.
D'accord.
Leur société est tournée vers la mémoire collective. Ils ont même des rituels de mémoire pour la préserver. Et l'harmonie énergétique, c'est crucial pour eux.
Et la technologie alors?
Eh bien, ils n'utilisent pas de technologie matérielle, comme on l'entend nous. Ils manipulent directement les flux d'énergie.
Ah oui, carrément.
Oui. Ce détachement du matériel, et puis leur fort isolationnisme, ça les rend fascinants, bien sûr, mais aussi très vulnérables aux forces extérieures. Et surtout, très difficiles à comprendre pour les autres.
Je vois. De l'énergie pure à la maîtrise technologique extrême. Voici les Telkin. Alors eux, humanoïdes élégants, peau argentée, décrits comme des maîtres des nanotechnologies. Leur moteur, ça semble être la connaissance avant tout.
Oui, c'est ça. Leur culture entière, c'est une quête de savoir quasi obsessionnelle, on pourrait dire. Ils viennent d'Achernar III. Ils sont dirigés par un conseil des sages. On pourrait appeler ça une technocratie méritocratique. Le pouvoir va aux plus savants, aux plus compétents techniquement.
Logique pour eux.
Exactement. Ils excellent dans les nanotechnologies, l'IA prédictive. Ils gèrent d'immenses bases de données neuronales. Leur grande force, c'est cette capacité d'analyse, d'anticipation.
Mais il y a un mais.
Oui, leur penchant pour l'isolationnisme culturel et leur fragilité physique, disons, hors de leurs environnements contrôlés. Ça, ce sont des limites assez claires. Ils préfèrent souvent observer de loin.
D'accord. Restons dans la technologie, mais avec une approche beaucoup plus pragmatique. Les Astaniens. Petits, robustes, ils vivent dans des mégacités souterraines sur Telluris. On les imagine un peu comme des bâtisseurs infatigables.
C'est une bonne image, oui. Chez eux, tout tourne autour de l'efficacité, de l'innovation concrète, du travail acharné. Leur société, c'est une fédération technocratique dirigée par un chancelier suprême.
Ok.
Ils valorisent l'ingénierie lourde, la construction de mégastructures, et ils ont une grande endurance. Ils sont incroyablement productifs.
Et le revers de la médaille alors?
Bah, comme souvent, leur monde souffre d'une pollution industrielle considérable et en note de fortes inégalités sociales entre l'élite qui conçoit et puis la masse ouvrière qui exécute, quoi.
Classique, malheureusement. Après ces technocrates bâtisseurs, on rencontre une forme d'organisation radicalement différente avec les Zouglians, des insectoïdes vivant en ruche, hiérarchie très stricte autour d'une reine. L'idée d'individu, là, elle semble s'effacer complètement.
C'est presque ça, oui. Pour les Willigans, l'unité de la ruche, l'adaptation biologique constante, c'est primordial.
D'accord.
Leur société est divisée en castes fonctionnelles, ouvriers, guerriers, savants, et ils se sont passés maîtres dans la biotechnologie vivante.
C'est-à-dire?
Ils construisent avec des organismes modifiés, leurs vaisseaux sont organiques, leurs armes sont biologiques. C'est une efficacité collective redoutable.
Impressionnant.
Mais cette organisation, ça implique une dépendance absolue à la reine et une incapacité quasi totale à comprendre les sociétés basées sur l'individualisme. C'est un vrai gouffre culturel.
Ah oui, j'imagine. Et cette fusion biologie-technologie, on la retrouve, mais sous une forme très différente, chez les Danari. Le document les décrit comme Migori, mi-cyborgs.
C'est ça.
Comment on concilie force brute et un plan high-tech comme ça?
Alors, chez les Danari de Vega 3, c'est une quête constante d'amélioration individuelle par la cybernétique. Ils partent d'une base biologique puissante et ils l'augmentent sans cesse avec des implants, des exosquelettes, des armes intégrées. Leur société est tribale, organisée en clans. La hiérarchie, les conflits, ça se règle souvent par des duels d'honneur qui valorisent cette puissance augmentée.
Ça doit être intense.
Oui. Ils sont extrêmement adaptables, c'est leur force. Mais ils sont toujours au bord de perdre ce qui reste de leur biologie originelle. Et les luttes de pouvoir entre clans sont permanentes.
D'accord. On revient à une forme d'humanité avec les néo-galactiques. Le document précise qu'ils sont issus de colonies humaines qui ont activement intégré des cultures et des technologies extraterrestres. L'hybridité comme stratégie, en quelque sorte.
Exactement. Ils représentent une sorte de voie médiane. Ils cherchent à tirer le meilleur parti du multiculturalisme et de la fusion technologique.
Ils viennent d'où, principalement?
Souvent de mondes frontières, là où le contact était inévitable, en fait. Ils ont développé une société basée sur la diplomatie, l'ouverture, la compétence interculturelle. Ils sont dirigés par un conseil galactique.
Et leur défi?
C'est de forger une identité cohérente à partir de ce mélange constant, tout en étant des moteurs de coopération via des organisations comme l'Union Galactique.
À l'opposé de cette ouverture, on trouve peut-être les Drox, massifs, martiaux, organisés en clans farouchement indépendants sur Canopus. L'autonomie, ça semble être leur valeur cardinale.
C'est le cœur de leur culture, oui. L'honneur martial et l'indépendance de chaque clan sont absolus. Ils rejettent viscéralement toute forme de pouvoir centralisé, de bureaucratie.
Ça se voit dans leur technologie.
Complètement. Elle est robuste, éprouvée, souvent axée sur le combat. Des implants cybernétiques pour la résistance, des armures lourdes, des vaisseaux puissants mais pas forcément subtils, quoi.
Et leur faiblesse?
C'est cette fragmentation. Les conflits entre clans sont fréquents et ils se méfient de toute alliance qu'ils jugent trop contraignante.
Logique. Si les Drox représentent l'indépendance clanique et martiale, les Arthuriens, eux, semblent incarner l'ordre absolu et la discipline. Élancés, peau argentée, maîtres de la technologie quantique. Qu'est-ce que ça implique concrètement?
Les Arthuriens de Licra Docum, ils ont poussé la logique de l'ordre à l'extrême. Leur société est une technocratie pyramidale très très rigide. Elle est dirigée par une figure appelée le Grand Régulateur.
Ok.
Tout est organisé en castes fonctionnelles. Stratèges, technocrates, opérateurs. Le but, c'est l'autosuffisance et éliminer toute forme d'imprévu, de chaos.
Et leur technologie quantique, vous disiez?
Oui, ils maîtrisent des technologies très avancées comme la téléportation quantique, le déplacement instantané et des IA tactiques complexes.
Ah oui, quand même!
Par contre, leur culture rejette l'expression des émotions. C'est vu comme une faiblesse. Cette rigidité et cette méfiance envers l'instabilité, ça les rend puissants dans leur sphère, c'est sûr, mais aussi très isolés.
Voici un cas qui soulève d'autres questions. Les synthétiques, humanoïdes artificiels biomimétiques. Le document semble dire qu'on ne sait pas trop s'ils sont de simples outils ou autre chose.
C'est toute l'ambiguïté, oui. Les synthétiques n'ont pas d'origine ou de culture propre connue. Leur nature, simple machine programmée, agent d'infiltration sophistiqué, voire peut-être une conscience émergente, ça dépend entièrement de ceux qui les créent et les utilisent.
Qui les crée?
Des corporations, des factions militaires, peut-être même des espèces comme les Telkin, pour des missions spécifiques. Ils imitent la culture de leur maître, en fait.
Ça doit poser des problèmes éthiques, ça.
Énorme. Sur l'identité, la conscience, le libre arbitre. Ils sont souvent source de peur, de méfiance, perçus comme un tabou ou une menace potentielle d'infiltration.
Compréhensible. Après les artificiels, explorons le quasi-immatériel avec les Ethereals. Ils vivent entre les dimensions physiques et quantiques. Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
Alors, les Ethereals sont des êtres fascinants. Leur but principal, c'est l'accumulation de connaissances sur l'univers. Et peut-être une forme de transcendance énergétique. Ils existent dans un état qui leur permet d'interagir avec le monde physique, mais aussi d'accéder à des réalités quantiques. Leur société, c'est une sorte d'oligarchie scientifique, dirigée par un maître des quantas.
Et ils peuvent faire quoi ?
Ils maîtrisent la téléportation quantique, une intelligibilité partielle, la communication télépathique, des capacités assez incroyables.
Donc, très puissants ?
Très avancés, oui. Mais aussi très isolationnistes. Ils n'interviennent dans les affaires galactiques que s'ils estiment que l'équilibre cosmique fondamental est menacé. Leur pouvoir soulève aussi d'importantes questions éthiques sur les limites de l'intervention, bien sûr.
Changeons radicalement d'élément avec les aquamariens. Une espèce aquatique avancée, vivant dans les océans profonds de leur monde. Comment ils s'organisent ? Sous l'eau.
Ils ont développé une civilisation sophistiquée, en parfaite harmonie avec leur environnement marin. Leur société, c'est une république maritime, démocratique, dirigée par un président des profondeurs.
Et leur spécialité, Evelyne ?
Ils sont experts en biotechnologie marine. Ils utilisent des organismes modifiés pour leur construction, leurs véhicules, et ils sont adaptés aux conditions abyssales extrêmes. Leurs villes sont souvent mobiles, bioluminescentes. C'est assez beau, j'imagine.
Ça doit l'être.
Leur culture valorise la fluidité, la communauté, la solidarité. Leur talent d'Achille, par contre, c'est leur vulnérabilité à la pollution venue de l'extérieur et une certaine difficulté diplomatique avec les espèces purement terrestres.
Retour sur la terre ferme, ou du moins sur une planète dédiée à l'industrie. Industria, le monde des Libilis. Humanoïde robuste, quatre bras, maître de l'ingénierie lourde. Là, c'est l'efficacité productive avant tout.
C'est exactement leur credo, oui. Les Libilis vivent dans une corporatocratie. Le pouvoir réel appartient aux dirigeants des grandes corporations, avec un directeur général suprême élu parmi les PDG.
Quatre bras, ça doit aider pour l'industrie.
À ça, c'est un atout majeur. Combiné à leur génie pour l'ingénierie lourde, la robotique, la construction d'infrastructures colossales, ils sont indéniablement forts là-dessus.
Mais avec un coût.
Énorme. Leur monde est ravagé par la pollution et la société est marquée par des inégalités criantes entre l'élite industrielle et la masse ouvrière. Encore une fois.
Une approche bien différente de la technologie nous attend avec les Cuiloriens. Peau verte, biotechnologie avancée, mais le document insiste sur leur harmonie avec l'écosystème de leur monde, Azeloria. Comment ils concilient les deux ?
Pour les Cuiloriens, la technologie doit servir à améliorer et à intégrer la biologie, pas à la remplacer ou à la dominer. C'est une philosophie clé.
D'accord.
Leur société est une république technocratique dirigée par un premier scientifique. Leur innovation est axée sur ce qu'on pourrait appeler la bioresponsabilité.
C'est-à-dire ?
Ils développent des implants organiques subtils qui s'intègrent au corps, des techniques de bioconstruction qui respectent l'environnement, des médicaments qui évoluent avec le patient. Ils cherchent une forme de perfectionnement en harmonie avec la nature.
C'est intéressant.
Oui, mais cette approche très rationnelle, très scientifique, peut parfois leur donner une réputation de froideur dans leurs relations diplomatiques.
Passons maintenant à une présence physique imposante, les Cnaïs. Peau rocailleuse, très grand, plus de 2,50 m, parfois cornu. On imagine une culture très traditionnelle.
Oui, les Cnaïs sont ancrés dans leur tradition. Leur culture repose sur des valeurs d'honneur, de force physique brute et un profond respect pour les anciens et la lignée.
Et leur organisation ?
C'est une monarchie tribale, avec un roi des clans à leur tête. Leur endurance et leur force physique sont légendaires, et ils sont réputés pour construire des forteresses quasi imprenables.
Leur point faible, c'est ce traditionalisme.
C'est ça. Ça les rend lents à s'adapter aux changements rapides de la galaxie. Et ils se montrent souvent méfiants vis-à-vis des alliances ou des technologies qu'ils jugent trop nouvelles.
Après la force brute et la tradition, place à l'émotion et à l'art avec les Zeltrons, humanoïdes à la peau rouge d'Aurora, connus pour leur culture vibrante et leur empathie. Le cœur guide leurs actions, c'est ça ?
C'est central chez eux, oui. La société Zeltron est une république sociale dirigée par un premier artiste. Elle célèbre l'expression émotionnelle libre, la créativité sous toutes ses formes. Musique, danse, art visuel.
Et cette empathie ?
Ils possèdent une empathie psychique naturelle, une capacité à ressentir les émotions des autres. Ça, combiné à un charisme certain, en fait d'excellents communicateurs et diplomates.
Quand tout va bien, j'imagine.
Exactement. Parce que le revers de la médaille, c'est leur grande vulnérabilité aux émotions négatives fortes, les leurs ou celles des autres, et un risque constant de malentendus culturels avec des espèces plus stoïques ou réservées.
À l'opposé de la grande taille des Cnaïs, on trouve les Timbris. Petits, agiles, mais décrits comme des stratèges et diplomates hors pair. L'intelligence, c'est leur meilleure arme.
Indéniablement. Venus de Timbri Prime, les Timbri ont compensé leur relative fragilité physique par une intelligence aiguisée. Leur culture valorise le savoir, la stratégie, l'art de la négociation.
Comment ils sont organisés ?
C'est une démocratie méritocratique où le mérite est basé sur l'intelligence et la compétence. Ils sont dirigés par un conseil des sages.
Et technologiquement ?
Ils excellent en ingénierie de précision, ils utilisent des nanodrones pour l'information. Leur éloquence naturelle et leur capacité d'analyse rapide sont redoutées. Leur point faible reste leur vulnérabilité physique directe, ce qui les pousse à chercher constamment des alliances et des solutions non violentes.
Voici maintenant une culture résolument martiale, les Pélans, des guerriers félins agiles avec une discipline militaire stricte sur Pollux 9. C'est l'armée qui structure toute leur société.
C'est exactement ça. La société Pélan est organisée comme un vaste camp militaire. C'est sous l'autorité d'un commandement militaire et d'un commandant suprême.
D'accord.
L'honneur, le mérite au combat, la discipline, la hiérarchie, ce sont les valeurs suprêmes. Biologiquement, ils ont des atouts. Agilité féline, vision nocturne, sens très développé. Ça en fait d'excellents soldats.
Mais pour la diplomatie ?
Cette focalisation sur le martial et une certaine rigidité culturelle peuvent rendre la diplomatie complexe, surtout avec des cultures pacifistes ou plus flexibles, qu'ils ont tendance à mépriser un peu.
Je vois. Revenons vers la science, mais avec une touche lumineuse. Les Zélotiens. Humanoïdes à peau cristalline, brillants, passionnés par la recherche sur Elos, des scientifiques guidés par une éthique forte.
C'est ce qui les distingue, oui. Comme les Telkins, ils sont tournés vers la connaissance, mais avec une insistance marquée sur l'innovation responsable et l'éthique.
Comment ça se traduit ?
Leur société est une technocratie dirigée par un grand scientifique et un conseil qui encadre strictement la recherche. Ils maîtrisent des technologies avancées, notamment dans le quantique et les IA, mais toujours en évaluant les conséquences potentielles.
C'est plutôt rassurant.
Oui. Mais cette approche très cérébrale, très prudente, peut les amener à être confrontés à des dilemmes éthiques complexes et à maintenir une certaine distance culturelle avec des sociétés plus pragmatiques, disons.
Et pour finir ce panorama, deux espèces qui semblent particulièrement redoutables ou adaptables. D'abord, les Karnak, reptiliens, militaristes, bâtisseurs d'empires depuis leur monde Karn. Leur réputation est assez claire, j'imagine.
Oui, les Karnak incarnent vraiment l'archétype de l'empire expansionniste et brutal. Leur société impériale est entièrement tournée vers la conquête, la domination territoriale.
Dirigée par
un empereur de sang qui accède généralement au pouvoir par la force et le conserve d'eux-mêmes. Ils sont dotés d'une force physique colossale, de capacités de régénération, et leur technologie est entièrement dédiée à la guerre, souvent brutale, sans finesse.
Et ça marche pour eux ?
Leur grande force est aussi leur faiblesse. L'instabilité interne due aux luttes incessantes pour le pouvoir et un isolement politique quasi total. Leur brutalité leur aliène la plupart des autres espèces.
Logique. Et on termine avec une note d'adaptabilité extrême. Les Sarpouriens. Humanoïdes de Zephyria, capables de vivre aussi bien sur Terre que sous l'eau. Ils tirent le meilleur des deux mondes.
C'est leur caractéristique la plus frappante, oui. Cette nature amphibienne unique leur confère une polyvalence exceptionnelle.
Et leur société ?
C'est une république écologique, démocratique, très attachée à l'équilibre environnemental et à la régénération. Ils peuvent interagir et s'établir dans des environnements très variés.
Des atouts en diplomatie, j'imagine ?
Oui, cette adaptabilité, combinée à une approche souvent conciliante, en fait des acteurs importants dans les affaires galactiques. On les retrouve souvent dans des instances comme l'Union Galactique, capable de faire le pont entre les mondes aquatiques et terrestres.
Eh bien, quel voyage ! Vraiment. 21 civilisations, 21 façons d'exister, de s'organiser, de voir l'univers. Des êtres d'énergie, aux empires reptiliens, des collectivistes absolus, aux individualistes augmentés. C'est vertigineux.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Si on essaye de prendre un tout petit peu de recul après ce survol intense, qu'est-ce qui ressort pour vous ?
Plusieurs choses frappent, je trouve. D'abord, l'incroyable plasticité de la vie. Ou de l'intelligence, si on inclut les synthétiques. Il n'y a clairement pas une seule voie correcte.
Non, c'est sûr.
Ensuite, on voit des tensions fondamentales qui se rejouent sous différentes formes. Le rapport entre l'individu et le groupe, l'équilibre entre technologie et nature ou biologie, le poids de la tradition face aux besoins de changement, la dynamique entre l'expansion et le repli sur soi aussi. Chaque espèce offre une réponse différente, en fait, souvent avec ses propres forces et ses propres contradictions.
On espère que cette exploration rapide, bon, elle était dense, mais qu'elle offre quelques repères. Pour mieux appréhender la complexité de cet univers décrit dans le document source, identifier ses archétypes, ses tensions, ça peut peut-être aider à comprendre les interactions possibles entre ces peuples.
Absolument. Et au-delà de la simple description, observer cette mosaïque, ça pousse à une réflexion plus large, je pense.
C'est-à-dire ?
Ben, face à une telle profusion de formes, de valeurs, de technologies, parfois radicalement opposées, peut-on imaginer des fondements réellement universels, si tant est qu'ils existent, qui permettraient non seulement une coexistence pacifique, mais une interaction riche et significative à l'échelle de toute une galaxie ?
Vaste question.
C'est une question ouverte, oui. À méditer.